Bonjour et bienvenue à En Action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Mon nom, c'est Daniel Rioux, je suis kinésiologue et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Bonjour Karine.
Bonjour Daniel.
Comment ça va aujourd'hui?
Ben, ça va bien. Ça va très bien. Je suis contente de te parler. Je pense que c'est la troisième fois que je participe au podcast En Action, donc jamais deux sans trois.
Exact. Ben,
Ouais.
aujourd'hui, on est super fiers de t'accueillir parce que tu as un nouveau titre. Maintenant, en plus d'être docteur en nutrition, tu es aussi autrice, tu as lancé un livre. De où ça te vient cette idée-là, ça t'est venu cette idée-là de lancer ton propre livre, d'écrire ton livre?
Ça va paraître étrange pour une réponse venant d'une scientifique, mais c'était probablement écrit dans l'univers. C'est drôle parce que je suis allée voir dans mon album de finissant, petite parenthèse, là, album de finissant du baccalauréat en nutrition. Puis mes amis avaient écrit, là, tu sais, pour mes projets futurs, là, c'était écrit maîtrise, doctorat, éditrice de livres de cuisine, peu importe, tu donneras le meilleur de toi-même. Et je trouve ça très drôle parce qu'à ce moment-là, c'était pas prévu que j'allais faire une maîtrise, un doctorat. Bon, je suis pas devenue éditrice de livres de cuisine, mais quand même, j'ai écrit un livre là, par la suite. Puis bon, ça a été long, là, ça a pris 16 ans là, avant que ça arrive. Mais j'aime pas forcer les choses de façon générale. J'aime attendre d'avoir quelque chose à dire, de sentir que c'est le bon moment aussi. Puis il y a aussi toute la notion d'authenticité aussi. Tu sais, je connais bien le contenu de mon livre. Évidemment, je connais la matière, mais c'était dans la façon de le rendre aussi. Tu sais, je viens du domaine des arts, hein. Avant la nutrition, j'ai fait 6 ans d'études en arts, puis il fallait que ça me représente bien. Donc, c'est pour ça que c'est un essai, là. C'est pas un livre académique, c'est pas une recette non plus de comment on devrait faire les choses. Puis, il y a aussi l'idée, ben, d'attendre de rencontrer une éditrice avec qui il y a un match vraiment, là. Donc, ça, c'est arrivé aussi, là, en 2020. Donc, il y a toute cette partie-là. Mais, fait que puis sinon, tu sais, si on pense à ce qui est dans le livre, donc au niveau de la matière de ce qui est raconté là, ben, à ce moment-là, ben, je voulais aussi trouver ma façon de le raconter. Tu sais, c'est aussi, ça parle de poids, ça parle d'alimentation intuitive. Puis, je te dirais que je rencontre aussi dans ma pratique là, clinique des personnes là, qui espèrent perdre du poids toute leur vie ou qui ne s'aiment pas, qui essaient de contrôler leur corps, calculer ce qu'ils mangent. Puis, je trouve ça triste, moi. Puis, j'avais le goût d'amener ma contribution à ça. Peut-être que mon livre, c'est un petit grain de sable, mais quand même, je trouvais ça important de parler de ces différents sujets-là.
Ben, moi, j'ai adoré ton livre, là. J'ai trouvé que c'était qu'il y avait un bel équilibre entre, mettons, des anecdotes personnelles, tu sais, reliées vraiment à ta vie, ton histoire, tout ça, versus, mettons, je dirais qu'il y a trois tiers dans le livre, là, des anecdotes personnelles, des faits scientifiques, là, avec des références qui sont à la fin de chaque chapitre. J'ai bien apprécié ce bout-là aussi. Puis aussi, ben, c'est ça, ton vécu clinique, là. Fait que moi, je trouvais que c'était. Au début, j'avais comme un peu peur de me retrouver dans un truc très académique, qui était comme. C'est un genre de guide, une recette, si on veut, de comment s'alimenter de façon intuitive, mais finalement, c'est pas du tout ça, là. Comme tu dis, c'est plus un essai en même temps vers, je dirais, une nouvelle société ou une société dans laquelle il y a plus de bienveillance, les valeurs, je pense, tes valeurs à toi qui transparaissent dans le livre, là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Vas-y.
Non, mais j'allais dire, puis tu sais, oui, les anecdotes personnelles, il y en a. Puis pour moi, c'est pas non plus quelque chose de naturel, tu sais. Puis bon, depuis que j'écris le livre, là, bien sûr, quand j'anime des conférences ou même en clinique aussi, ben oui, je raconte des anecdotes personnelles quand c'est pertinent pour comprendre certaines notions. Par contre, là, dans un livre, ben, c'est public, cette affaire-là, hein. Puis j'ai comme eu un petit moment, là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que moi, je suis de nature plutôt discrète, là, j'ai pas étalé ma vie. un peu partout, mais je parle de sujets ben, que j'ai étudiés, pour lesquels j'ai une compétence, mais je trouvais ça intéressant de voir ben, d'où ça vient aussi cet intérêt-là pour les sujets, tu sais, parce que je parle pas de sujets parce que c'est à la mode nécessairement. Tu sais, il y a des sujets à la mode, puis je les laisse à d'autres personnes qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais tu sais, tout ce qui concerne le poids, les préoccupations, les aliments, tu sais, j'ai l'impression que C'est depuis toujours que je baigne là-dedans, tu sais. Donc, je trouvais ça intéressant là, de raconter d'où ça vient. Tu sais, comme par exemple, le sujet de l'alimentation intuitive, bien, j'ai lu une première étude là-dessus, c'était en 2010, pendant que j'étais étudiante au doctorat, alors qu'on n'en parlait vraiment pas beaucoup, alors que maintenant, bien, c'est rendu très populaire. Et je trouvais ça intéressant d'amener justement ce cheminement-là, puis cette découverte-là, bien, entre autres, là, c'est pas juste pour l'alimentation intuitive, mais j'aime ça aussi, moi, quand j'entends parler d'autres auteurs ou d'autres personnes, de voir ben, d'où ça vient cet intérêt-là. Tu sais, ça humanise les choses un peu. Tu sais, c'est pas juste un paquet d'études là, qu'on a sorti par hasard, on ne sait pas trop pourquoi, là. Peut-être qu'on les trouve intéressantes, mais pourquoi on les aime, tu sais, ça, je trouve ça intéressant.
Absolument. Ben, moi, ça m'a surpris un petit peu de lire le livre, là, parce que justement, je te connais, je sais que tu es une personne assez discrète, puis là, on avait l'impression de te découvrir, là, fait que, mais en tout cas, mais je comprends, puis si je me trompe pas, ça, tu mets comme un peu ton histoire au service de la cause, là, dans le sens que, tu sais, comme tu dis, c'est pour humaniser le livre, puis rendre ça plus concret, puis de savoir d'où ça vient, finalement, parce que quand on sait d'où les gens viennent, ben ça aide un peu à savoir où ils s'en vont, puis pourquoi ils agissent comme ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant.
Merci beaucoup.
Au début du livre, là, tu nous parles d'une idée, puis j'ai été... presque surpris d'entendre ça. Dans le fond, tu t'attaques un petit peu à l'idée que de manger santé, mettons, cette étiquette-là. Est-ce que tu trouves qu'on exagère quand on applique, mettons, tu as peut-être déjà vu ça dans les épiceries, là, mettons, les aliments bleus là, qui sont bons pour la santé, alors que, mettons, ils sont juste réduits en sel ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu trouves qu'on exagère avec cette étiquette-là de bon pour la santé?
Définitivement. Attention, mais il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, mais à la base, un aliment santé... Bon, j'ai une idée de ce que ça peut être, mais ça dépend toujours des critères aussi qu'on va utiliser. Des fois, à la blague et de façon ironique, je vais dire, ben, après 10 années d'études universitaires, je sais toujours pas exactement ce que c'est, même si j'ai une idée aussi. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est plus du marketing que de la science ou de la santé, ça, c'est certain. Puis, on peut même se demander, c'est quoi un aliment santé? Probablement qu'on n'aurait pas la même définition là, d'une personne à l'autre. Donc, je pense que ça joue vraiment sur nos perceptions. Puis, c'est basé sur la valeur nutritive de l'aliment, probablement. Ça, je comprends ça, mais c'est basé sur quoi exactement? Est-ce que c'est sur les nutriments à la mode? T'sais, là, on sait qu'on est dans un moment où les glucides sont pas très populaires. Donc là, on va mettre faible en glucides pour que ça sonne bien à nos oreilles, qu'on trouve ça intéressant, puis qu'on risque plus d'acheter l'aliment, finalement. Fait que, c'est très discutable, cette notion-là. Est-ce que c'est aussi pour se déculpabiliser de faire certains choix alimentaires? T'sais, des fois, il y a certaines allégations santé sur des aliments qu'on sait que la valeur nutritive n'est pas si bonne que ça. Fait que c'est pour ça que ça dépend des critères de base. Puis, c'est sûr que chaque, par exemple, supermarché va avoir ses critères aussi pour avoir des aliments santé. Tu mentionnais tantôt qu'il y a des aliments réduits en sodium, c'est très bien. Mais moi, je pense que ça joue sur nos perceptions. Puis, au bout du compte, ben, tu sais, s'il y a beaucoup d'allégations, puis il y a une connotation santé, on risque davantage d'acheter. Puis, je pense que c'est malheureusement ça le but aussi là, de l'industrie.
Ouais, ben moi, mettons cette étiquette-là d'aliments santé, là, j'essaie maintenant, avec un succès mitigé depuis que j'ai lu ton livre, de l'enlever, là, mais c'est très difficile parce qu'on est comme attaché à ce mot-là. Ouais. Là. Puis, je veux dire, je pense pas que les gens fassent ça avec une mauvaise intention, mais.
Ah, non.
Mais mettons, si je me fais, je sais pas, un repas de pâte avec de la sauce tomate, ben je vais avoir tendance à, mettons, me faire une salade. Parce que là, je vais me dire, ah, ben là, la salade, ça va être santé. Tu sais? Mais ça, c'est tellement imbriqué, là, comment on peut déconstruire ça?
Ben en fait, quand on voit ça, des aliments avec la connotation santé, ben tu sais, en même temps, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas un seul aliment qui va nous rendre en santé ou qui va nuire à notre santé, là. Ça, c'est certain, parce qu'on voit ça comme aliment par aliment. Ce qui est peut-être plus difficile et ce qui serait peut-être bien de faire aussi, c'est de voir ça, de voir notre alimentation dans son ensemble. C'est d'essayer de voir, ben, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger. C'est ça aussi qui va en partie avoir un impact sur notre santé. J'ai calculé là, que si on vit 100 ans puis on mange 3 fois par jour, je pense que j'arrivais à 109 500 repas dans notre vie, peut-être autant de collations. Fait que je pense pas que si on a mangé un aliment une fois de temps en temps, c'est vraiment ça qui va avoir un gros impact sur notre santé. Mais c'est plus dur de faire ça, de voir notre alimentation dans son ensemble. Parfois, on voit juste, ah, il y a eu un repas un certain vendredi soir, là, hey, lui, il n'était pas santé. Fait que là, on pense que là, notre santé est foutue. Là. Mais non, c'est un repas parmi tant d'autres aussi.
Est-ce que tu penses que de voir les choses sur le long terme, ça peut aider? Je te donne un exemple. Mettons, moi, j'aime le chocolat. Puis là, je débute une diète, disons. Puis là, je me dis, bon, là, je ne mangerai plus de chocolat. Ça, c'est quelque chose que je peux envisager, mettons, pour les prochaines semaines. Mais si je me dis, ben là, je ne mangerai plus de chocolat pour, mettons, les 10 prochaines années, puis que là, je ne peux pas imaginer ma vie sans chocolat pendant 10 ans, bien là, ça m'amène peut-être à faire d'autres choix. Est-ce que tu trouves que, mettons, de se projeter, mettons, sur les 10 prochaines années, quand on essaie de faire, disons, des choix alimentaires, ça peut être une bonne idée?
Bien, oui, de voir est-ce que c'est réaliste pour moi. C'est peut-être exact. Ça la question, tu sais, c'est la même chose dans n'importe quelle habitude de vie, je pense. Est-ce que je pourrais maintenir ces changements-là à long terme? Si la réponse est oui, ben, probablement que c'est bien, c'est réaliste, ça va. Mais tu sais, l'idée d'essayer de se priver d'un aliment sur le long terme, parfois on l'espère, mais parfois c'est pas réaliste non plus, surtout un aliment qu'on aime. Des fois, c'est dans le but de se priver parce qu'on perçoit que c'est engraissant, que c'est pas bon pour la santé, mais ça va nous rattraper à un moment donné. Peut-être que ça va être pire aussi si on se prive de manger un aliment qu'on aime. Tu sais, on s'expose à avoir peut-être plus d'en manger en excès, d'avoir des rages alimentaires aussi. Là,
moi, on parle de diète un petit peu, là, puis on va en parler un peu plus. J'ai été... Je suis tombé en bas de ma chaise. Non, c'est pas vrai. J'étais bien assis. J'étais bien assis, fait que j'étais correct, mais j'ai 45% des femmes, si on veut, des Québécoises font au moins 2 tentatives de perte de poids par année. Ça, ça dépasse l'entendement. C'est énorme.
C'est beaucoup, hein? Puis au moins 2 tentatives par année, ben ça veut dire que ça peut être plus, là. 4-6 tentatives par année. Parfois, c'est pas rare dans ma pratique clinique aussi que je rencontre là, on parle des femmes parce que ces données-là, ils étaient chez les femmes. Mais les hommes aussi vont avoir quand même des préoccupations. Mais c'est pas rare que je rencontre des personnes qui ont été à la diète dans les 40 dernières années. Là, c'est comme tout le temps, arrêter, recommencer. Fait que c'est très fréquent, c'est préoccupant aussi. Puis qu'est-ce que ça nous montre? Ben, si c'est à recommencer si souvent, ben, probablement que c'est parce qu'on devrait remettre la méthode en question.
Mais de où ça vient si finalement ce problème-là? Oui, je comprends que la diète est un problème. D'un autre côté aussi, la tentative de contrôle de notre alimentation est un problème. Puis, c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés envers eux-mêmes ou elles-mêmes. Là. Enfin, il y a quelque chose qui sous-tend ça. C'est quoi, à ton avis?
Bien, il peut y avoir plusieurs choses, mais tu sais, on peut penser qu'on est dans une société où on a des normes sociales de minceur aussi. La minceur est beaucoup valorisée. Puis, quand on parle de normes, c'est pas des règlements, c'est pas des lois, là, c'est vraiment plus au niveau de ce qu'on attend de nous en tant que personne. Puis la minceur, elle est associée à la beauté, au succès, au bonheur. Donc, aussitôt que c'est ce qu'on perçoit dans notre tête, bien, nécessairement, on va vouloir correspondre au modèle qui est demandé, qui est valorisé aussi. Puis comme les normes sociales de minceur, bien, ils s'expliquent par plusieurs choses, entre autres ben, le modèle unique de beauté. T'sais, il y a un modèle unique de beauté plus typiquement féminin, il y en a un autre qui est plus masculin. Donc, si on voit toujours le même modèle, par exemple à la télé, dans les publicités, un peu partout, mais à ce moment-là, si nous, personnellement, on ne correspond pas à ce modèle-là, ben, inconsciemment, on va penser qu'on a quelque chose à changer, qu'on n'est pas correct, qu'on ne convient pas à ce qui est proposé. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, on veut avoir une diversité corporelle qui est représentée un peu partout. Je pense que ça habitue notre regard aussi, puis que c'est normal, hein, on n'a pas toutes la même taille, la même morphologie, le même poids non plus. Après ça, ben, il y a les préjugés à l'égard du poids qui sont très présents aussi. On peut s'imaginer que si on vit dans un corps qui est plus gros, puis qu'on est jugé à tout moment, un peu partout, là, des fois c'est au travail, c'est avec dans certaines publicités aussi, tu sais, donc on veut correspondre aussi au modèle qui est proposé pour arrêter d'être victime de préjugés aussi. Tu sais, puis je pense que il y a toute la notion aussi du poids où des fois on va penser que on peut l'entendre encore là en 2022, mais que le poids c'est une question de volonté, alors que ben là je pense qu'il y a des notions de physiologie qui nous manquent là, rendu là, mais c'est pas ça. Donc tu sais, c'est oui de pas vouloir vivre de préjugés. Veux-tu que je continue? J'en ai encore de réponses.
Non, mais j'adore ça. Oui, tu peux continuer.
Il y a aussi le discours médical aussi. Quand je dis médical, ouais, ça peut venir de différents professionnels de la santé, là, pas seulement des médecins, mais où un poids plus élevé est nécessairement associé à la maladie. Ben, tu sais, c'est pas une garantie non plus, là. Peut-être que oui, il y a certaines maladies chroniques qui peuvent avoir un risque plus élevé à certains poids, mais je pense que là, on a transformé ça en on a tort et plus gros, on est malade, puis si on est mince, on est en bonne santé, alors qu'on sait très bien qu'on peut être malade puis en bonne santé à tous les poids aussi. Ouais. Donc, c'est comme beaucoup associé à la maladie, on va se le faire recommander de perdre du poids aussi, mais encore là, notre poids, c'est pas une habitude de vie, c'est pas un comportement. J'ai un chapitre là-dessus aussi, tu sais, où je dis, ouais, ben, c'est sur nos habitudes de vie qu'on a vraiment un certain pouvoir, tu sais, puis si on veut travailler sur quelque chose, ben, ce serait là-dessus et non sur notre poids où il y a des facteurs non modifiables qui l'expliquent aussi, tu sais, notre génétique, nos hormones, notre âge, même si on est bien discipliné, on n'a pas un grand contrôle là-dessus non plus. Donc, bref, il y a tout ça, puis une autre chose aussi, il y a des données là, de 2021 là, qui sont sorties après mon livre, mais où on peut se questionner parce que l'industrie là, de tous les produits, services, moyens amaigrissants, là, partout dans le monde, là, il y a une projection pour l'année 2022 où ça va rapporter là, 300 milliards de dollars canadiens partout dans le monde. Puis l'Amérique du Nord, là, c'est vraiment une grande partie de ces 300 milliards-là. Donc, c'est énorme, c'est extrêmement lucratif là, de miser sur nos insatisfactions, finalement.
En fait, là, en lisant le livre, je me suis dit aussi, il y a peut-être des trucs qu'on a à déconstruire plus qu'à construire. Là. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais je trouve que, mettons, le lien entre santé, mettons, saine alimentation, puis perte de poids, ou poids santé, là, appelons-le comme on veut, c'est comme si, pour beaucoup de monde, là, c'est comme si c'était trois choses qui allaient ensemble, alors que pas nécessairement. Là, tu sais, c'est, oui, dans le fond, comme tu dis, c'est les habitudes de vie qui sont importantes. Mmh. Ça, on en convient. Sauf qu'après ça, puis il y a l'aspect de la beauté aussi là-dedans là, qui est à déconstruire. Là, tu sais, on peut être beau à tous les poids, puis il y a une diversité de goûts aussi dans la nature. Puis ça, c'est important de respecter ça, puis de déconstruire cet amalgame-là. De tout mettre ensemble puis de tout considérer que c'est ensemble, là, quitte à déconstruire, mais ça, c'est pas facile.
Ben non. Puis, tu sais, le poids puis la santé, c'est deux choses très différentes. La santé, c'est beaucoup plus global et c'est plus la. Puis ça inclut aussi ben, notre santé psychologique, là. C'est pas juste une question de santé physique non plus. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on devrait s'attarder parce que, tu sais, travailler à m'écrire directement. Moi, je dis toujours qu'on est limité et c'est très risqué. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Puis, tu sais, on voit aussi les données là, par rapport à ça où le taux d'échec est extrêmement élevé aussi. Donc, si vraiment on se préoccupe de notre santé, je pense qu'on devrait y aller avec, à travailler sur des choses sur lesquelles on a un certain pouvoir aussi dans nos habitudes de vie. Ça ne veut pas dire que parce que notre corps, il y a une certaine morphologie ou un certain poids qu'on peut juger des habitudes de vie d'une personne. Ça, c'est une autre affaire aussi. Même si on a une alimentation qui est relativement saine, qu'on fait de l'activité physique, il va y avoir encore une diversité corporelle. Mais on dirait qu'on l'a tellement associé, ça, la minceur, la santé, mais c'est pas un lien. C'est loin d'être un lien direct. Fait que des fois, de faire un petit ménage dans tout ça, là, ça fait du bien.
Effectivement. dans le livre, là, est-ce que tu penses que ton livre, on peut aussi le considérer comme que c'est un peu une, je repose ma question autrement. Je recommence. Dans le livre, là, tu nous parles des valeurs qui sont reliées à la féminité versus la masculinité. Puis, tu sais, c'est drôle de voir ces valeurs-là qui sont encore projetées. Puis, c'est comme si c'était assez stable dans le temps parce que moi, ça me semblait être les mêmes qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Là, tu sais. Mettons, pour les femmes, si je me souviens bien, là, c'était, mettons, comme d'être belle, s'occuper de ses enfants, être une bonne mère de famille, etc. Puis pour les hommes, c'était comme travailler fort, être fort, puis paraître comme pas avoir trop d'émotions, des trucs comme ça, là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Trouves-tu que, mettons, penses-tu que ça a évolué depuis le temps de cette étude-là ou pas tellement?
Ouais, tu sais, juste pour mettre en contexte, là, ces études-là, elles ont été faites aux États-Unis en 2003 puis en 2005, donc ça fait pas si longtemps, puis c'est des normes de genre, en fait. C'est un peu ce qu'on s'attend à ce qu'une vraie femme ait l'air ou fasse là, dans la société. Puis la même chose, je mets en guillemets, bien sûr. Là. Et la même chose aussi, un vrai homme, comment ça devrait être. Puis là, tu donnais des exemples, hein, mais même une femme doit être mince, une femme devrait être sexy. Il y a ça dedans aussi. Devrait s'investir dans les tâches domestiques. Puis même, tu sais, là, juste pour compléter là, ce que tu mentionnais tantôt, l'homme, lui, là, il prend plus de risques, il est compétitif. Puis il y avait même avoir du pouvoir sur les femmes, puis même avoir un certain potentiel de violence. Hey, moi, j'étais outrée, mais vraiment, c'est vraiment une perception, tu sais, je veux dire, c'est pas en 1800, là, c'est quand même au début des années 2000. Ouais. Je pense que, ça, c'est vraiment mon opinion, là. C'est pas une donnée scientifique, je pense que ça évolue, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais tu sais, je regarde chez les plus jeunes, là, puis j'ai enseigné à l'université, là, auprès au département de nutrition. Puis je pense qu'on remet ça en question, ces choses-là, tu sais, quand on voit ça. Puis, tu sais, pourquoi j'en ai parlé, moi, dans mon livre, c'est parce que moi, j'étais complètement outrée de ça, là. Tu sais, on dirait qu'on veut pas que ce soit comme ça, puis que finalement, il y a des études qui montrent, là. Fait que j'aimerais ça, moi, qu'on évolue peut-être plus vite que ça. Puis, tu sais, mon point, c'était, tu sais, qu'on remette ça en question, qu'on arrête d'essayer d'être ce qu'on attend de nous dans la société, puis peut-être essayer d'être ce qu'on a envie d'être. Puis ça, là, je donnais un exemple dans... Ça, c'est mon chapitre, il s'appelle « Le devoir de plaire », là, celui à lequel tu fais référence, puis... Je raconte que, tu sais, je devais avoir 6 ou 7 ans, puis moi, j'ai pratiquement toujours eu les cheveux courts, hein, mais les cheveux courts, pour une femme, hein, ça marche pas, c'est comme associé au genre masculin des cheveux courts. Pourtant, quand j'avais 6-7 ans, je portais une robe, puis je me souviens j'étais avec ma mère, puis il y a une madame, on devait être au centre d'achat, il y a une madame qui avait dit à ma mère que j'étais beau. Hein? Tu sais, j'avais une robe. je me dis, c'est quoi son problème à elle? Mais tu sais, là, je fais des blagues, mais c'est pour cette madame-là, elle, tu sais, une femme devait probablement avoir les cheveux longs, là. Ça se pouvait comme pas, là, sinon. Fait que, tu sais, qu'on puisse se défaire de ça, puis arrêter de vouloir correspondre à certains standards, mais peut-être plus se questionner sur ce qu'on a envie. Tu sais, si jamais les standards, on aime ça, puis on est bien avec ça, là, c'est parfait, là. Mais au moins qu'on s'offre cette liberté-là de se questionner sur ce qu'on aime vraiment, puis ce qu'on a envie d'être. Puis, tu sais, pour... revenir à ta question, ce que je vois aussi dans les médias, là, je parlais des étudiants aussi, mais tu sais, par exemple, garder nos poils, arrêter d'enlever nos poils automatiquement, ben ça, c'est une caractéristique, puis il y a même un organisme aussi qui travaille là-dessus pour dire « Hey, c'est good de garder tes poils, garde-les, sont là, puis t'es pas obligé de les enlever. » Je vois ça aussi, peut-être que c'est à cause de mon âge, mais tu sais, comme par exemple, l'idée de devoir se teindre les cheveux. Tu sais, je voyais, je pense que c'est ce matin, c'est une actrice qui garde ses cheveux naturels, puis je sais pas, elle doit être dans la cinquantaine, puis elle a les cheveux un peu grisonnants, puis c'est très, très beau. Mais j'ai vu dans les commentaires que ça dérangeait certaines personnes. Oh, je l'ai même pas reconnue. Ah, oh, je l'aimais mieux en brune. Ben, c'est parce que ça, c'est sa couleur naturelle. Tu sais, je me dis, là, on est en train de demander de se changer automatiquement pour correspondre à un certain modèle. Fait que des fois, je sais pas, là, ça m'interpelle, en fait. Il faudrait penser que ben, on a le droit d'être aussi ben, au naturel si on a envie d'être au naturel. Ouais. En tout cas, là, je suis partie dans mon affaire.
Ben, absolument, mais... Ben non, mais moi j'aime bien, c'est une partie du livre que j'ai bien aimé, là, cet éditorial-là, si on veut, sur se choisir soi-même, si on veut, puis parce que tout ça c'est relié, là, le poids, l'apparence, les valeurs, tout ça, c'est relié beaucoup à la perception que les autres ont de nous. Puis, mais c'est moi, je dirais que c'est quelque chose qui est très difficile puis qui prend du temps là, de se séparer puis de moins s'attacher, mettons, à l'opinion des autres. Je dirais même que c'est l'œuvre d'une vie, si on veut. Puis d'ailleurs, ta mère en parle à un moment donné. Ben, je me souviens d'une anecdote avec une robe rouge et une robe noire avec la dame au magasin.
Oui.
Puis, tu sais, ta mère, c'est à peu près ça qu'elle dit, là, dans le fond.
Oui, c'est vrai, dans les derniers chapitres, par rapport aux vêtements, ma mère, elle trouvait qu'il y avait un veston qui était beau, un veston rouge. Elle avait le goût d'aller l'essayer. Elle disait, je savais que je ne l'achèterais pas, je savais qu'elle allait être trop chère, mais j'avais juste le goût de l'essayer. Et la vendeuse, elle a dit, ah, on a le même en noir, genre le noir s'amincit ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, ma mère, elle a répondu, mais madame, moi, j'aime ça un veston rouge. Si je veux un veston rouge, je vais m'acheter un veston rouge. puis c'est comme, mais je sais que c'est pas mal intentionné parce qu'on est tellement dans cette culture-là de culture des diètes, de vouloir paraître mince, tout ça. Fait que, tu sais, l'idée avec les couleurs de vêtements, c'est que ben, on a le droit de porter du noir si on trouve ça beau, mais il faudrait pas, si notre corps il est d'une certaine façon, porter du noir parce qu'on doit cacher notre corps, pas se sentir obligé de porter du noir, mais que ce soit vraiment une décision qu'on prenne. Puis si on a le goût de s'habiller en rouge, ben c'est super, hein, s'habiller en rouge, tu sais. L'idée, c'est pas de se cacher si on correspond pas au modèle unique de beauté.
Exact, exact. Mais mettons en conclusion, pour terminer sur cette idée-là, là, je pense, j'ai la même perception que toi. Là, tu disais qu'à l'université, là, mettons, tu sentais un changement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain changement en lien avec la diversité corporelle, en lien avec la diversité, disons, des valeurs qui sont mises de l'avant, puis la diversité des choses qui sont acceptées ou tolérées ou normalisées là, à l'intérieur de notre société. Je pense qu'on évalue vers... On évolue vers une société quand même plus diverse que ce qu'elle était il y a 10 ans, même quand on a commencé des entreprises, tu sais, ou il y a 20 ans quand j'étais mettons, au secondaire. Fait que je pense, je sais pas si c'était la même perception, mais je pense qu'on s'en va vers plus de diversité, là, puis que c'est bon.
Ouais. Bien, vraiment. Puis même, tu sais, quand on... Je pensais ça aussi, quand on a des sites web de proposer des images de corps diversifiés, tu sais, que ce ne soit pas toujours les mêmes modèles. Parce que des fois, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, mais c'est juste qu'on n'y pense pas. Quand on cherche des images, là, sur des banques d'images, sur la santé, tout le monde est très mince. Il n'y a pas personne qui fait du sport, là, avec un corps qui est plus gros. Alors que dans la vraie vie, ben il y a des gens de tous les... de toutes sortes de corps qui font du sport. Là. Ça, c'est, d'ailleurs, ben, tu sais, j'en parle dans un chapitre sur l'activité physique aussi. Quand je vais courir sur les plaines d'Abraham, là, ben, il y a absolument de tous les corps, de tous les âges. Puis à ce moment-là, ben, puis je l'ai tourné un petit peu à l'ironie. Il y en a qui suent beaucoup, il y en a qui ne suent pas beaucoup, il y en a qui portent une tuque, il y en a qui ont une casquette, il y en a qui portent rien. Fait que c'est une longue énumération. Moi, j'adore ça en passant faire des énumérations. Là, il y en a souvent dans le livre, mais pour montrer que ben, c'est ça la vraie vie. T'sais. Je me souviens, la première fois que j'ai couru un marathon, je m'imaginais arriver au départ que tout le monde allait être très mince parce que c'est ce qu'on voit. On voit toujours les gagnants à la télé. Puis c'est vrai que peut-être une certaine physionomie que, ben peut-être qu'on court plus vite, là. Ça se peut. Mais sauf que quand je suis arrivée là, j'étais surprise de voir qu'il y avait une très grande diversité. Pourtant, c'est pas rien, un marathon, là. Donc, je me disais, mais tu sais, je m'étais même fait des idées moi-même, là.
Ouais.
Mais c'est comme de défaire ça.
Mais à la fin aussi, tu en parles, là, tu sais, de comment, que, dans le fond, on a tendance à voir notre corps, des fois, comme... vouloir le modeler, mais à la place, est-ce qu'on peut plutôt l'apprécier pour ce qu'il nous permet de faire? Là, déjà, si on a nos jambes qui nous permettent de courir, si on a nos bras qui nous permettent d'écrire, cuisiner, peu importe, ben déjà, on peut apprécier notre corps pour les possibilités qu'il nous offre.
Oui, c'est ça. D'essayer d'arrêter de voir notre corps en deux dimensions, comme une photo ou comme un nombre de livres là, sur un pèse-personne. Là. Notre corps accomplit des fonctions. Si on essaie d'intégrer ça, comme tu le dis, là, voir qu'est-ce que notre corps nous permet d'accomplir, peut-être que si on avait magasiné notre corps, on n'aurait pas pris celui qu'on a actuellement. Peut-être qu'il y a des parties qu'on retournerait sur la garantie puis on en prendrait d'autres, là, mais ça marche pas le même. Fait que c'est d'essayer de voir. Puis, tu sais, moi, dans le livre aussi, c'est mon exemple, c'est les cuisses, là. C'était comme un complexe là, que j'avais. Là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai couru, j'ai fait tout le tour de la ville, j'ai monté la côte Gilmore à course. J'étais, hein, voyons donc, comment ça se peut monter ça à course après avoir fait le tour de la ville? Puis, rendu en haut, j'ai comme regardé mes cuisses, puis j'ai dit, hein, j'ai osé vous juger. Puis, tu sais, moi, je trouve que l'activité physique, c'est tellement, ben, je parlais pour moi, mais je sais que c'est ben, quand même, c'est pas juste pour moi, là, mais pour c'est ce qu'on essaie de, on essaie de tendre vers ça, voyons, je vais le dire. L'activité physique, ça permet aussi d'améliorer l'image corporelle, la façon dont on se perçoit. Je pense que c'est un chemin intéressant. De voir qu'est-ce que notre corps nous permet d'accomplir, d'être fiers de nous aussi, des fois, de se dépasser aussi. C'est notre corps qui nous permet d'accomplir ça. Puis je pense que c'est important de le remarquer, d'y porter attention à ça. Même si c'est peut-être pas le corps rêvé, c'est pas lui qu'on aurait pris, mais c'est ça aussi l'idée de reconnaître les fonctions puis de voir que notre corps nous permet de vivre des émotions positives aussi. Là, j'ai des images de défis entreprises avec tellement d'heureux. Hey! C'est pas à cause de leur poids certains qui sont heureux comme ça. Là. C'est probablement parce qu'on vient d'accomplir quelque chose d'agréable. Ben oui. Puis on a du plaisir aussi. On est avec d'autres personnes. Là. Donc, ouais. C'est vraiment d'essayer de voir ça beaucoup plus large que hey, un poids sur la pèse personne. Là, ça évalue juste la force de la gravité sur la planète Terre. Là. C'est
exact.
Tout. Là.
Exact, mais moi j'ai vraiment évolué mettons dans les 10 dernières années là, sur ça parce que tu sais en sortant de l'université c'est pas nécessairement ah, oui. des préoccupations qu'on avait dans le baccalauréat en kinésiologie là, mettons tout cet aspect-là de prise en charge des gens qui veulent perdre du poids parce que tu sais il y a beaucoup de gens qui consultent en kinésiologie aussi pour perdre du poids là, pas juste en nutrition mais tout cet aspect-là d'acceptation ou de diversité, je dirais, mais c'est quelque chose qui est comme vraiment, je pense, à intégrer dans la pratique. Puis, je sais pas, là, je me permets un aparté, mais dans le fond, je sais pas si c'est quelque chose que vous, comme nutritionniste, là, vous pensez peut-être que ce serait pertinent à intégrer dans d'autres cursus académiques, là, mais je pense qu'il y aurait de la place là, pour cette approche-là dans d'autres sphères, oui. là, puis dans d'autres professions de la santé, parce que présentement, comme ce discours-là, je l'entends beaucoup en lien avec la nutrition, mais tu sais, je veux dire, des actions en nutrition, il y a plein de professionnels de la santé là, qui en posent indirectement. Là, fait que, puis dans le fond, la perte de poids puis l'alimentation intuitive puis cette acceptation-là n'est pas unique à ce qu'on mange. Là, est aussi avec comment est-ce qu'on se rétablit nos blessures en physiothérapie. Est aussi avec comment on s'entraîne. Fait que, oui. c'est une approche qui gagnerait à être beaucoup plus connue, je pense.
Oui. Ben, tu sais, je me souviens qu'on a commencé à collaborer en 2017. Ouais. Tu m'avais demandé une conférence sur l'alimentation intuitive, puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, bon, ça fait 5 ans, mais tu sais, c'était pas encore si connu. Fait que, tu sais, de propager ça aussi, ça c'est génial. Puis tu sais, je pense que, ben la nutrition, c'est une science qui évolue, ben comme toutes les autres sciences aussi, mais nos connaissances aussi. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, on était vraiment stické sur le poids, puis là, on se rend compte que, ah, mais finalement, c'est d'essayer de contrôler notre corps constamment, puis de toute façon, même si on contrôle notre corps, peut-être qu'on ne va pas correspondre au modèle proposé, là, qui est jugé idéal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? T'sais, on ne va pas passer notre vie à se trouver incorrect ou à ne pas apprécier notre vie, notre corps, tout ça. Donc, puis de voir aussi qu'on n'a peut-être pas autant de contrôle sur notre poids qu'on l'a déjà pensé non plus. C'est sûr que si on se restreint de manger, on va en perdre du poids sur le moment, mais tu sais, l'idée, c'est aussi de voir sur le long terme. Tu sais, si on pratique la restriction, puis tu l'as mentionné, les statistiques aussi tantôt, tu sais, ben oui, que ce soit toujours à recommencer, ben c'est parce qu'on ne peut pas vivre éternellement là, en restriction non plus, tu sais, c'est pas... On ne profite pas pleinement de notre alimentation dans ce temps-là, c'est pas confortable. Fait que, tu sais, je pense qu'on a intérêt à plus voir comment on peut se connecter avec nos besoins, puis plus respecter notre corps, être bienveillant aussi envers lui.
Absolument. Ben, moi, plus ça va là, dans mon jugement, là, si on veut, moins je pense qu'on a de contrôle, mettons, sur notre santé physique, là, puis sur, à la limite, quasiment nos habitudes de vie. Là, tantôt, juste avant de commencer l'entrevue, on en parlait, mais tu mentionnais que, mettons, les goûts, il y a une partie, oui, qui est acquise, mais il y a peut-être une partie aussi qui est génétique. Mais là, si moi, je tombe avec une génétique qui préfère les Kit Kat, ben, je suis comme un peu pris avec ça. Alors que toi, tu le mentionnes dans le livre, dans ton top 5 des aliments, il y a les choux de Bruxelles. Mais ça, c'est quand même une chance, là, disons. Ouais. Parce que les choux de Bruxelles, on peut pas vraiment considérer ça comme du junk food. Là.
Non, en tout cas, dans mon livre. Mais, puis en même temps, tu sais, j'ai probablement pas de mérite parce que je me souviens qu'enfant, là, puis moi, j'adorais les bonbons, j'aime encore ça. Puis les choux de Bruxelles, là, c'était aussi bon que des bonbons. Alors, je me dis, si c'était comme ça à 5 ans, là, c'est probablement génétique parce que je savais pas que c'était bien de manger des choux de Bruxelles. Là, j'avais pas fait une association comme ça dans ma tête. Là. Donc, oui, il y a une partie génétique, il y a une partie d'habitude aussi. C'est l'idée aussi. Puis, ah oui, je me souviens, ce chapitre-là sur les choux de Bruxelles, c'était en lien avec les appétits spécifiques. Tu sais, quand on a vraiment envie de manger quelque chose. Là. Puis, pas nécessairement un aliment sucré parce qu'on s'est privé d'en manger. Pas dans ce sens-là, mais c'est une envie de manger quelque chose, là, c'est vraiment marqué, mais c'est pas lié à la valeur nutritive de l'aliment. Fait que moi, j'ai ça des fois pour les choux de Bruxelles, la salade roquette aussi. Comment ça se fait que je mange des gros bacs de salade roquette? Je me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis les appétits spécifiques, c'est un peu de... Il y a un petit peu de littérature scientifique par rapport à ça. C'est... tu sais, quand on est vraiment à l'écoute de soi, c'est de manger aussi les aliments qui vont nous permettre de se sentir bien. Des fois, de dire, ah, il y a peut-être un nutriment là-dedans que mon corps a besoin, ce qui fait que j'ai envie de manger ça. Bon, ça fait un peu, peut-être, un peu zen, là, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. T'sais, tu sais, dans notre société, on a tendance à être beaucoup dans les informations cognitives, les connaissances. C'est super bien, hein? Je serais vraiment mal placée pour dire que c'est pas intéressant, mais il y a aussi ce qu'on ressent, c'est comment on se sent, puis ça, je pense que c'est une partie, des fois, qui est négligée. Fait que si jamais on est vraiment à l'écoute de notre corps, ben c'est peut-être que notre corps est capable aussi de nous indiquer qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, peut-être qu'on mange aussi des aliments qui nous font sentir bien. On peut s'imaginer différents aliments, là, puis différentes quantités, puis comment on pourrait se sentir à manger ça. T'sais, je me souviens, j'avais enregistré une capsule il y a longtemps là, sur la montagne de frites. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Je me souviens, oui.
Oui, hein, dans cette capsule-là, je disais, ben l'idée, c'est si on a une montagne de frites devant nous, tu sais, l'idée, c'est pas d'essayer de résister et que c'est pas correct de manger des frites, mais pourquoi on mange pas des frites dans une quantité aussi qui va pouvoir nous faire sentir bien, tout en sachant que si j'ai encore envie d'en manger à l'avenir, il va en avoir encore. Tu sais, c'est d'essayer de pas se priver tout le temps de manger les aliments, mais plus de dire, ben, il va être là encore, puis sur le moment, ben, je vais me permettre de manger une quantité qui me permet que ce soit bien au niveau digestif aussi, que ce ne soit pas trop, que je ne me sente pas bien. C'est un petit peu vers ça qu'on veut tendre, en fait, plutôt que de catégoriser les aliments puis d'enlever certains aliments. Mais oui, j'ai toujours des rages de choux de Bruxelles. Je trouve ça vraiment très, très bon. J'ai découvert qu'il y en avait au Costco. J'ai acheté un immense sac.
Bon. Mais c'est drôle ce que comment tu parles de l'alimentation, ça me fait, je viens juste de réaliser ça, mais ça me fait un petit peu penser à ce qu'on, à l'activité physique, là, je vais faire un parallèle. Oui. Souvent, nous, quand on parle d'activité physique, on dit que c'est préférable que les gens aient une motivation intrinsèque à faire d'activité physique, c'est-à-dire qu'ils préfèrent faire de l'activité physique pour l'activité elle-même plutôt que pour ses bénéfices. Mais c'est un peu le même discours que tu tiens, là, dans le fond. Les aliments, il faut les apprécier pour ce qu'ils sont et non pour leurs bénéfices pour la santé ou, tu sais, manger des carottes pour mieux voir, etc. Là, tu sais, dans le fond, l'aliment, idéalement, il faut l'apprécier le plus possible pour ce qu'il est, le goût qu'il nous donne, les plaisirs qui nous amène, sa texture, etc. Puis, fait que, dans le fond, l'idéal, c'est de tendre vers une motivation intrinsèque à manger, si on veut.
Oui, exactement. Ben, puis quand c'est intrinsèque, tu sais, c'est comme, moi, j'appelle ça des informations internes, ça vient de nous. il y a un intérêt à... Je pense qu'on, par rapport aux aliments, pourquoi on met pas plus de temps, peut-être à trouver des façons de cuisiner les aliments de façon à ce qu'on les aime, que ce soit agréable, plutôt que de diriger nos pensées là, vers la valeur nutritive, puis uniquement ça parfois. C'est très bien la valeur nutritive. Là, je dis pas que c'est mal, mais manger, ça se résume pas à ça. Il y a une valeur aussi qu'on dit gastronomique, une valeur affective, une valeur culturelle aussi liée à l'alimentation. Même tout l'aspect de la convivialité, être ensemble, c'est agréable. Ça, c'est quelque chose qui nous manque un peu là quand même, mais dans le contexte actuel. Mais c'est dans l'ensemble là, qu'on devrait considérer ça. T'sais, si on voit juste la valeur nutritive, ben, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. T'sais, nécessairement, on va se placer dans une position d'échec. Donc, je reviens là-dessus, mais d'essayer de voir notre alimentation dans son ensemble aussi, c'est ça qui va être important, de voir est-ce que j'ai de l'énergie, est-ce que je me sens bien. L'alimentation, bien sûr, va contribuer à ça, c'est pas uniquement ça, mais d'essayer de le voir de cette façon-là. Tu sais, c'est supposé d'être un plaisir manger, là. Je dis souvent que c'est pas supposé être une charge mentale. Quand c'est rendu qu'on pense juste à ça, puis qu'on veut donc bien faire la bonne affaire, puis qu'on se sent coupable, bien, je pense qu'il y a des choses peut-être qui sont améliorées, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup l'alimentation intuitive, justement, parce que c'est l'idée, tu sais, c'est pas d'essayer de contrôler notre alimentation, contrôler notre corps, c'est plus d'être à l'écoute, de comprendre nos comportements, puis bon, la bienveillance, c'est un mot qui est souvent utilisé, mais c'est ce que j'aime, justement, tu sais, on veut prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment différent des fois de ce qu'on a pu apprendre. Il fallait contrôler, puis faire des bons choix, puis pas faire de mauvais choix. Puis c'est plate, ça. Bon. On peut tout changer de discours en 2022.
On est rendu là, je pense.
Oui, mais quand même.
En tout cas, je pense que ton livre, il va contribuer à ça. Là. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Là. Tu sais, ton livre, c'est comme je disais, un éditorial vers une nouvelle société où est-ce qu'il y a plus de diversité puis plus de bienveillance. Puis je pense, puis indirectement, ça, c'est lié à l'alimentation. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ton livre. Puis ça se lit bien, là, comme c'est pas un livre qui est lourd à lire ou qui est long à lire. Là. Fait que ça prend quelques heures, puis pouf! C'est comme si on s'ouvrait un peu sur une nouvelle façon de s'alimenter. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Veux-tu... Oui. Dans le fond, si on veut se le procurer, c'est quoi le meilleur endroit?
En fait, il est disponible en librairie, normalement. Il est facile à trouver. L'éditeur, c'est KO Édition. On le retrouve aussi sur leur site web. Donc, peut-être juste vérifier avant si on se déplace là, pour s'assurer qu'il est bien disponible. Mais normalement, on le retrouve partout. Puis l'autre chose aussi, là, on est le 8 avril. Je suis au Salon du Livre de Québec de 16h à 18h. Le kiosque 723. Donc, si jamais... il y a des personnes à l'écoute qui ont envie de la voir et même de venir me rencontrer et même que je puisse faire une dédicace, mais ça va me faire vraiment plaisir.
Cool. Eh bien, félicitations pour ton livre. Sérieusement, c'est un bel accomplissement. J'espère que tu l'apprécies et que tu le goûtes là, finalement ton livre. Parce que c'est ça, je trouve que c'est un gros pas en avant. Puis je te félicite pour ça. Je te lève mon chapeau.
Hey, merci beaucoup, Valentin. Ça me fait vraiment plaisir.
Ça fait plaisir. Merci pour l'entrevue, Karine, pour ton temps encore une fois. Puis je te souhaite bon succès avec ton livre et tous tes projets.
Merci beaucoup à toi aussi. Puis on se dit à bientôt.
Salut, à bientôt.
Bye.